Laudetur Jesus Christus.
Journée de manifestation à Bangkok. Les jeunes Thaïlandais demandent plus de démocratie et la démission du Premier ministre. Certains veulent même une réforme de la monarchie. Elle laisse derrière elle un poste vacant, doté d'un immense pouvoir. La doyenne de la Cour suprême américaine, Ruth Bader Ginsburg, est décédée. Et nous l'entendrons, la bataille pour son remplacement s'annonce déjà intense. Les pro-Morales vont-ils reprendre le pouvoir en Bolivie? Son parti, le MAS, est en tête des sondages pour la présidentielle d'octobre. La présidente par intérim retire sa candidature au profit d'une union de la droite. Le pape François dénonce la marginalité pharmaceutique. Les médicaments ne doivent pas être l'apanage d'une nation ou des plus riches, a répété le Saint-Père. Les détails en fin de journal.
Le journal Marine Henriot.
Bonjour à tous. Ils sont des dizaines de milliers actuellement dans les rues de Bangkok pour demander plus de démocratie et le départ du Premier ministre. Ce sont les plus importantes manifestations dans le royaume depuis le coup d'État de 2014. Une vague qui a débuté cet été et qui devrait durer tout le week-end. Olivier Bonnel.
Les organisateurs espèrent rassembler au moins 50 000 personnes dans les rues de la capitale thaïlandaise. Dans la matinée, des centaines de manifestants ont forcé les portes d'un campus universitaire du centre de Bangkok, Thammasat, un lieu symbolique. C'est là qu'en 1976, des dizaines d'étudiants qui protestaient contre le retour d'un régime militaire y avaient été tués par les forces de l'ordre. Les protestataires ont un slogan « Vive la démocratie, Prayut dehors » du nom du Premier ministre en poste après le coup d'État de 2014. Selon eux, la Constitution a été illégalement modifiée pour renforcer le pouvoir des militaires. Dès le mois de juillet, des manifestants étaient descendus dans la rue pour demander la dissolution du Parlement et de nouvelles élections. Le 16 août, 10 000 personnes s'étaient déjà retrouvées à Bangkok, essentiellement des étudiants. Certains n'hésitent pas non plus à demander une réforme de la monarchie thaïlandaise, un sujet tabou. « Notre objectif n'est pas de détruire la monarchie », expliquait l'une des organisatrices des manifestations, « mais de la moderniser, de l'adapter à notre société ». Pour l'heure, comme à Hong Kong, ces protestations concentrent des jeunes urbains de Bangkok, mais le vrai test sera de voir si les classes populaires pourraient suivre. Le gouvernement thaïlandais a quant à lui interdit ces rassemblements, estimant qu'ils risquaient d'accélérer l'épidémie de Covid-19 dans le pays.
Olivier Bonnel. Entre Pékin et Washington, c'est œil pour œil, dent pour dent, alors que les États-Unis annoncent interdire le téléchargement d'applications de smartphones chinoises, dont TikTok, à partir de dimanche. Pékin réplique. La Chine va instaurer un mécanisme lui permettant de restreindre les activités d'entreprises étrangères sur son sol. Les entreprises qui, selon Pékin, portent atteinte à la souveraineté nationale seront sanctionnées. Son visage était emblématique de la Cour suprême américaine. La doyenne de l'institution, Ruth Bader Ginsburg, est décédée hier à l'âge de 87 ans. Une juge progressiste, championne de la cause des droits des femmes, des minorités ou de la protection de l'environnement. Ruth Bader Ginsburg laisse derrière elle un poste vacant, doté d'un immense pouvoir. La juge a fait part d'une dernière volonté il y a quelques jours que son poste soit remplacé seulement après l'élection et l'investiture du prochain président américain. Mais la bataille juridique et politique pour son remplacement semble déjà commencer. Cyprien Viette.
Le président Donald Trump a salué la vie exceptionnelle de cette juge classée à gauche qu'il a qualifiée de colosse du droit. Les drapeaux du Congrès de la Maison-Blanche ont été mis en berne, mais une fois passé un délai de décence de quelques jours, la fin de mandat du président républicain sera probablement marquée par la quête d'un successeur. Ce processus complexe ne devrait pas aboutir avant la présidentielle du 3 novembre, mais même en cas de défaite, le président Trump, qui restera quoi qu'il arrive au pouvoir jusqu'au 20 janvier, pourrait profiter de ce long délai entre l'élection et la passation de pouvoir pour faire pencher la Cour suprême dans le camp conservateur. Rien n'empêche le président Trump d'user de cette prérogative durant les derniers jours de son mandat. Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, pousse en ce sens. C'est pourtant ce même Mitch McConnell qui avait fait obstruction en 2016 à la nomination d'un juge proposé par Barack Obama en affirmant qu'une telle nomination ne serait pas admissible en pleine année électorale. Le candidat démocrate Joe Biden appelle logiquement à ne pas se précipiter pour remplacer la juge décédée. Les électeurs doivent choisir le président et le président doit proposer un juge au Sénat, il dit dans une déclaration à la presse. Le sénateur républicain Ted Cruz, qui figure sur la liste des candidats potentiels, n'a pas attendu la fin de la période de deuil pour réclamer la nomination d'un nouveau juge dès la semaine prochaine. Cette nomination, c'est pour ça que Donald Trump a été élu, a écrit sur Twitter cet ancien adversaire du président, devenu l'un de ses partisans les plus zélés.
Cyprien Viette. On reste aux États-Unis. L'élection présidentielle se tient dans 50 jours, mais certains États peuvent déjà voter de manière anticipée. C'est le cas, par exemple, en Virginie. Et la foule était au rendez-vous, des files de parfois plusieurs heures devant les bureaux de vote hier. Alors que le vote par correspondance a été mis à mal par Donald Trump, de nombreux électeurs ont finalement préféré se déplacer physiquement. Au Pérou, le président échappe à la destitution par le Parlement. Seulement 32 députés ont voté pour le destituer après 10 heures de débat à l'Assemblée. L'opposition a lancé la tentative de destitution après la diffusion d'enregistrements audio dans lesquels le président Vizcarra demande à des témoins de mentir dans une enquête portant sur l'embauche d'un chanteur par le ministère de la Culture. La justice soupçonne l'artiste d'avoir bénéficié de contrats de complaisance. 15 jours après le lancement de la campagne électorale en Bolivie, l'actuelle présidente intérimaire, Jeanine Áñez, annonce le retrait de sa candidature. Une annonce qui a eu lieu au lendemain de la publication d'un sondage qui la place en quatrième position. En tête des sondages, le candidat de gauche du parti de l'ex-président Evo Morales. Jeanine Áñez a donc décidé de faire marche arrière et mise à présent sur l'union de la droite pour éviter le retour au pouvoir des socialistes du MAS. La correspondance de Caroline Vic.
Ce n'est pas un sacrifice, mais au contraire un honneur. Voilà ce que Jeanine Áñez a déclaré après l'annonce du retrait de sa candidature. La présidente intérimaire a affirmé avoir pris cette décision pour protéger la démocratie. Et c'est un sondage qui l'a fait changer d'avis. En tête, avec un peu plus de 40% d'intention de vote, Luis Arce du parti MAS, Mouvement au Socialisme, le candidat de l'ancien chef d'État Evo Morales. En deuxième position, le candidat de droite Carlos Mesa avec 26%. Puis Luis Camacho, l'un des leader des protestations contre Morales l'année dernière, avec 14%, et en quatrième position, donc, Jeanine Áñez avec 10%. Avec son retrait de la course présidentielle, Áñez mise donc sur une alliance de droite afin d'éviter la victoire du MAS. Mais ce n'est pas si simple, car Mesa et Camacho ne semblent pas vouloir s'unir. Il faudrait donc un second tour pour que la droite ait une chance d'aspirer à la présidence. Ce retrait surprise de la présidente a donc mis un peu plus encore de piment et de tension dans cette campagne, à un mois seulement de l'élection présidentielle. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
En Espagne, la région de Madrid est débordée par les cas d'infection au coronavirus et de nouvelles mesures ont été prises. Dans certaines zones de la région madrilène, il faudra se limiter aux sorties seulement dans son quartier, à moins d'aller à l'école, au travail ou chez le médecin. Cela à partir de lundi et pour 2 semaines. À Dublin également, nouveau serrage de vis pour limiter la propagation de la pandémie. À partir de ce soir, seuls les pubs et restaurants servant à l'extérieur pourront être ouverts. Dans la capitale irlandaise, les rencontres doivent se limiter à 6 personnes à l'intérieur, 15 à l'extérieur. Les visites dans les maisons de retraite sont suspendues. L'inégalité dans l'accès aux médicaments. En ces temps de crise sanitaire, le pape François a fermement dénoncé ce matin la marginalité pharmaceutique, un fossé supplémentaire entre les peuples selon lui. Le Saint-Père qui s'est exprimé devant 200 volontaires de la Banque italienne du médicament qu'il recevait en audience, Delphine Allaire.
Oui Marine, et c'est surtout sur les populations les plus pauvres et vulnérables que le pape s'est attardé. Ceux qui vivent dans la pauvreté sont pauvres en tout, même en médicaments. Leur santé est donc plus vulnérable, a déploré François. Sur le plan éthique, le Saint-Père estime donc que s'il existe la possibilité de guérir une maladie avec un médicament, celui-ci devrait être disponible pour tous. Sinon, l'injustice créée accentue une nouvelle fois cette mondialisation de l'indifférence que nous voyons appliquée dans tant de domaines sociétaux. Pour l'endiguer, le pape propose à la place de mondialiser le remède, mais pour ce faire, la recherche scientifique doit être valorisée le plus possible. Elle est précieuse et doit donc être soutenue financièrement par les entreprises pharmaceutiques, entre autres, soutient le pape François. Le pape qui a eu un mot aussi pour les pharmaciens. Au quotidien, ils travaillent pour le bien intégral et cette juste équité des médicaments. Enfin, en ces temps de pandémie, et alors que la course au vaccin anti-Covid est toujours en cours, Marine, le souverain pontife a bien sûr réitéré son appel à fournir un traitement pour tous sans qu'il ne devienne ni la propriété d'une nation, ni celle des plus riches.
Merci Delphine. Delphine Allaire. Et les détails sont bien sûr à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Le Saint-Siège appelle à un dialogue sincère, au rejet de la violence et au respect de la justice et des droits en Bélarus. Ce sont les mots de l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU à Genève. Les détails sur notre site internet. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, c'est tout à l'heure à 18h. Je vous souhaite un très beau week-end. Au revoir.